chapitre 1, les versets 27 à 30. Et nous allons voir que c'est un passage qui nous montre ce qu'il y a de plus important pour une église, ce qu'il y a d'essentiel pour une église. On va le lire dans un instant, mais il faut déjà réaliser que c'est précieux de pouvoir savoir, voilà ce qu'il y a de plus important pour une église. C'est important dans la vie de savoir qu'est-ce qui est le plus important et d'y rester attaché toute la vie. Je suis frappé par cette citation de William Carey, qui était un missionnaire du passé, qui disait « Je n'ai pas peur de l'échec, j'ai peur de réussir dans les choses qui n'ont pas d'importance. » Je n'ai pas peur de l'échec, j'ai peur de réussir dans les choses qui n'ont pas d'importance. Il montrait qu'il y avait pire qu'échouer, c'était de réussir dans des choses qui ne sont pas essentielles. Et il faut réaliser avec regret le danger qu'il y a pour une église de réussir dans des choses qui ne sont pas essentielles. Le danger pour une église d'oublier ce qu'il y a de plus important. Imaginez un hôpital qui se concentre uniquement sur le fait d'améliorer le confort de ses patients. Ils vont changer les lits pour mettre vraiment des lits de bonne qualité. Ils vont avoir des meilleurs cuisiniers pour avoir une bonne nourriture. Ils vont mettre des grands écrans plats dans toutes les chambres. Mais ils vont arrêter de soigner les patients. On est d'accord de dire que ce serait ridicule. Mais c'est le danger qui guette une église qui oublie l'essentiel, qui oublie ce qu'il y a de plus important et qui se met à faire toutes sortes d'autres choses, sauf ce qui est vraiment important. On avait vu dans Philippiens, on a commencé il y a quelques semaines, le chapitre 1, le verset 10, que Paul priait pour les Philippiens pour qu'ils puissent discerner ce qui est important, ce qui est essentiel. Bien, dans nos versets aujourd'hui, Paul montre aux Philippiens, voilà ce qui est le plus important. On va lire donc Philippiens 1, les versets 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entendrai dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer, et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Prions pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Notre Dieu, on te prie que tu sois avec nous dans ce temps de réflexion, de méditation de ta parole. Œuvre par ton esprit dans nos cœurs pour nous aider à discerner ce qui est le plus important, ce qui est essentiel pour notre vie chrétienne, pour notre vie d'église. Motive-nous à lutter pour l'évangile tant que nous sommes encore ici-bas. Et on prie cela dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Paul commence son passage en disant « seulement » au verset 27. C'est-à-dire par-dessus toute autre chose, avant toute chose, le plus important, c'est faites ce que je vous dis ici dans ces versets. Et ces versets résument très bien l'essentiel de ce que Paul veut transmettre aux Philippiens dans cette lettre et l'essentiel de ce que l'on peut en apprendre en tant qu'Église. Ces versets nous appellent à vivre à la lumière de l'Évangile, ce qui va impliquer de lutter pour l'Évangile ensemble, malgré les différences et malgré l'opposition. On va voir ça ensemble avec les trois points qui sont aussi dans votre livret. Un but commun, une unité essentielle et une opposition inévitable. Premièrement donc, un but commun. Regardez à nouveau le début du verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Voilà ce que Paul demande à ses chrétiens. Ils doivent se comporter d'une manière digne de l'évangile du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire de se comporter d'une manière digne, d'avoir une conduite qui est digne? Imaginez que je sois invité chez le roi Philippe, le roi de la Belgique. Quel privilège! Mais maintenant, imaginez que j'arrive très en retard, casquette à l'envers, sweat à capuche, et je passe l'essentiel du repas à être sur mon téléphone, à ne pas lui adresser la parole, et avoir une attitude vraiment de dédain envers lui. Alors, vous savez très bien que ça n'arriverait pas, non seulement l'invitation, mais aussi cette conduite, peut-être. C'est un exemple extrême, mais on dirait qu'une telle attitude n'est pas digne de l'invitation que j'ai reçue, du privilège qui m'a été donné. Ce n'est pas à la hauteur du privilège qui m'a été donné. Et c'est un peu ça dont il est question quand Paul parle de vivre d'une manière digne de l'Évangile. C'est avoir une manière de vivre qui convient à l'Évangile, qui est à la hauteur de l'Évangile, qui est en conformité, on pourrait dire, à l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est le pardon gratuit et immérité qui se trouve en Jésus. Par la mort, la résurrection de Jésus pour sauver. C'est le Dieu qui aurait dû nous condamner en raison de notre péché, qui est aussi le Dieu qui veut nous sauver malgré notre péché, qui donne son propre Fils pour nous sauver. On était des criminels condamnés et Jésus paye à notre place pour qu'en lui on soit pardonné, qu'on ait une vie nouvelle, qu'on ait la faveur de Dieu lui-même. C'est ça le message le plus puissant au monde. C'est ça la meilleure des nouvelles. Et c'est à la lumière de ce message que l'on est appelé à vivre en tant que chrétien. Nos vies doivent être dignes de cette bonne nouvelle merveilleuse. Et il ne s'agit pas que nos vies doivent être dignes dans le sens qu'on doit faire des efforts pour vivre d'une bonne manière, pour espérer peut-être un jour atteindre le standard de perfection de Dieu. Être à la hauteur pour peut-être gagner quelque chose de la part de Dieu. C'est la manière dont on considère souvent la religion. Fais du bien, fais des bonnes œuvres autour de toi et tu pourras gagner l'approbation de Dieu. Comme si on allait tous recevoir une note à la fin de cette vie sur la manière dont on avait vécu et seulement ceux qui auront par exemple la moyenne pourront être au ciel. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle de la Bible est bien différent. La Bible nous explique que personne ne pourra même avoir la moyenne. On est tous très loin du standard de perfection de Dieu. On a tous péché, transgressé la bonne loi de Dieu par nos actes, par nos paroles, par nos pensées. On mérite un jugement de la part de Dieu, sa colère, sa juste réaction face au mal en raison de notre injustice. Et aucun de nos efforts ne peut nous permettre d'échapper à ce jugement. On a beau essayer de toutes nos forces, on ne pourra jamais atteindre la perfection. Et c'est pour ça que la mort de Jésus est une si bonne nouvelle. Jésus meurt pour prendre sur lui la punition, pour prendre sur lui le jugement qu'on mérite, de sorte qu'on peut réellement être pardonné par Dieu. On peut réellement recevoir le salut éternel comme un cadeau gratuit. Que Dieu ne donne pas en fonction de nos mérites, de notre note, mais en fonction de sa grâce, de sa faveur imméritée en Jésus. Vivre d'une manière digne de l'Évangile, c'est comprendre cela. Et c'est vivre en conséquence. Il ne s'agit pas de faire des efforts pour espérer peut-être obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais il s'agit de faire des efforts parce qu'on a tout reçu de la part de Dieu. Le salut en Jésus. Si dans les autres religions, c'est la bonne conduite qui mène au salut, dans l'Évangile, la bonne nouvelle que la Bible présente, c'est le salut, c'est l'Évangile qui nous mène à avoir une bonne conduite, à vivre de la bonne manière. On vit en conséquence de l'Évangile, à la lumière du pardon merveilleux qu'on a reçu. Un auteur explique cela en utilisant l'image des anciennes balances qu'on utilisait avant pour mesurer où vous mettez d'un côté sur la quantité que vous voulez mesurer, vous empilez les poids. Et puis de l'autre côté de la balance, vous mettez ce que vous voulez mesurer, par exemple de la viande, et vous allez ajouter la viande jusqu'à ce que ça fasse le même poids pour avoir la même quantité des deux côtés. C'est un peu ça l'image qui est utilisée ici. D'un côté, on met l'Évangile, et de l'autre côté, on met notre vie. Et on veut que notre vie ait le même poids que l'Évangile. Paul veut que les Philippiens vivent d'une manière qui a le même poids que l'Évangile dans lequel ils ont cru, que leur vie pèse la même chose comme conséquence logique de cet Évangile. Et comme on l'a vu la semaine dernière, Paul est un bon exemple de quelqu'un qui a une vie dont le poids est le même que l'Évangile. On a vu que la vie de Paul se résumait à dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». C'est ça sa raison de vivre, sa plus grande ambition, le but qui gouvernait toute sa vie. Il avait décidé de mettre l'Évangile à la première place et de vivre toute sa vie à la lumière de cette réalité. Et c'est facile de penser que cette manière de vivre, elle est réservée aux grands missionnaires ou aux pasteurs, mais ce n'est pas pour tout le monde. Je ne sais pas quelle est votre réaction quand vous entendez les exemples que j'ai cités la semaine dernière. Jim Elliot avec quatre autres, qui meurent en essayant d'annoncer l'Évangile à une tribu reculée. Charles Studd qui quitte tout ce qu'il avait, l'honneur et la richesse, pour être missionnaire en Chine. On peut facilement entendre ça, se dire mais ça, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est seulement pour les autres. Moi, je me contente de vivre la vie chrétienne normale. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, la vie chrétienne normale, c'est mettre l'Évangile avant tout. C'est dire avec Paul, Christ est ma vie, et vivre toute sa vie à la lumière de cette réalité. Paul ne pense pas que sa manière de vivre est réservée aux grands missionnaires ou aux pasteurs. Parce que juste après avoir montré comment il vivait, en ayant l'Évangile à la première place dans le passage la semaine dernière, voilà ce qu'il dit à ses chrétiens. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. » En gros, vivez de la même manière. Ayez la même ambition, le même but. Bien sûr, comme on l'a dit la semaine dernière, ça va ressembler à quelque chose de différent pour chacun. On a tous des responsabilités différentes et des vies bien différentes. Mais tous, on veut avoir la même ambition. Tous, on veut avoir une vie qui a le même poids que l'Évangile. Comme on l'avait vu aussi la semaine dernière, on veut tous pouvoir répondre à la question « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» en disant « Je vis pour Jésus, à temps plein. » On a besoin de chrétiens qui comprennent et qui vivent cela. On a besoin d'employés, de mères au foyer, de retraités et d'étudiants, de pasteurs et de membres d'église qui vivent d'une manière digne de l'Évangile, qui vivent tous à 100% pour Jésus, qui ont ce but commun. Et ça nous amène à notre deuxième point ce matin, la suite de ce passage où on voit qu'il y a une unité essentielle. Une unité essentielle. On peut se demander, mais à quoi ça va ressembler pour ces chrétiens de vivre d'une manière digne de l'Évangile? Qu'est-ce que Paul a en tête? On voit ça au verset 27. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, c'est ce qu'on a déjà vu. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Le résultat d'une vie digne de l'Évangile pour ces chrétiens, ça va être qu'ils vont combattre dans un même esprit, dans une même âme pour la foi de l'Évangile. Il s'agit de l'unité ici. Il est question d'un même esprit, d'une même âme. Vivre d'une manière digne de l'Évangile, c'est ne pas laisser les divisions prendre le dessus dans l'Église, mais c'est rester unis, c'est rester ensemble, avec le même but, avec le même objectif, malgré les différences. Ici, le but qui est mentionné, c'est de combattre pour la foi de l'Évangile, ou on pourrait dire pour la foi qu'est l'Évangile. C'est-à-dire la foi ici désigne le contenu du message chrétien, le message de la foi chrétienne, l'Évangile. Et on est appelé à lutter ensemble pour cet Évangile, à se donner ensemble pour cet Évangile. On peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de lutter pour l'Évangile? Qu'est-ce que ça signifie? J'aimerais mettre en avant brièvement quatre choses d'après cette lettre aux Philippiens, de ce que ça signifie de lutter pour l'Évangile, pour ces Philippiens et pour nous aujourd'hui. D'abord, ça voudra dire de chercher les progrès de l'Évangile. Comme Paul dans le passage la semaine dernière, vouloir que cet Évangile soit entendu par le plus grand nombre et se réjouir quand cet Évangile est annoncé, même quand ça nous coûte. Ça voudra dire annoncer nous-mêmes cet Évangile autour de nous, être partenaire dans l'œuvre de l'Évangile comme les Philippiens, par leurs dons financiers, par leur soutien moral, par leurs prières. D'abord, c'est chercher les progrès de l'Évangile. Deuxièmement, lutter pour l'Évangile, ça va impliquer de préserver la vérité de l'Évangile face à l'opposition. On va voir ça au troisième point, il y a des gens qui s'opposent à l'Évangile et même des gens qui veulent changer son contenu. Lutter pour l'Évangile, c'est défendre les vérités chrétiennes. C'est continuer à croire et à enseigner ce que la Bible enseigne, surtout quand c'est remis en question. Troisièmement, lutter pour l'évangile, ça va impliquer aussi de chercher le progrès des autres dans la foi. On voit que c'était le souhait de Paul, au verset 25 du chapitre 1, il voulait rester auprès des Philippiens pour leur progrès et pour leur joie dans la foi. Et c'est ce que Paul va appeler les Philippiens à faire dans le chapitre 2 qu'on verra la semaine prochaine. Donc c'est chercher à ce que les autres chrétiens autour de nous grandissent dans leur connaissance et dans leur amour pour Jésus. Et enfin, lutter pour l'évangile, quatrièmement, ça va impliquer de rester unis à faire cela, malgré le danger des divisions. Il est question ici dans ce verset de demeurer ferme dans un même esprit. Il faut demeurer ferme parce que le courant pousse pour mettre à mal cette unité. Comme Éphésiens 4 le dit, l'unité est quelque chose qu'il faut s'efforcer de conserver, dans Éphésiens 4, 3. C'est quelque chose à maintenir, et pour le maintenir, il faut faire des efforts. C'est ça, vivre d'une manière digne de l'Évangile. C'est ça, lutter ensemble pour l'Évangile. Et c'est ça le plus important. Ce que Paul dit ici, ce n'est pas un bonus pour l'Église, mais c'est l'essentiel de ce que l'Église est appelée à faire. C'est le cœur de ce que Paul veut dire aux Philippiens. Par-dessus tout, luttez ensemble pour l'Évangile. N'oubliez pas ça, n'arrêtez pas ça. Et il faut reconnaître le danger pour une Église de ne plus faire cela, d'oublier cela, d'être ensemble mais de ne plus lutter pour l'Évangile, de se transformer, on pourrait dire, en un hôpital qui ne soigne plus les patients. Le danger d'être ensemble, mais juste pour passer du bon temps, avec plein d'activités qui sont vraiment sympas, mais où on ne s'intéresse pas à la vie spirituelle des autres, à leur progrès dans la foi, à grandir nous-mêmes dans la foi. Où l'Église devient juste un club social qui nous permet de rencontrer des gens. Le danger d'être ensemble pour faire des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas essentielles. Par exemple, de se mettre ensemble pour répondre aux problèmes sociaux qui sont autour de nous. Alors c'est vrai que la pauvreté dans le monde ne devrait pas nous laisser insensibles en tant que chrétiens. Et les chrétiens, de manière individuelle, sont appelés à joindre l'action à leur compassion. Mais l'Église existe afin de lutter pour l'Évangile. C'est ça sa mission. Et donc si l'Église vient à faire de sa mission principale ce que des œuvres non chrétiennes, qui ne sont pas chrétiennes, font, peuvent faire, alors elle s'est égarée. L'Église s'est détournée de l'essentiel. On pourrait mentionner d'autres dangers, le danger d'être ensemble et de juste rester ensemble et d'oublier qu'il y a un monde qui nous entoure, rempli de gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus et de croire en lui. Ou le danger d'être ensemble et de laisser des fausses doctrines être enseignées dans l'Église, sans rien dire ou sans même le remarquer, sans jamais dénoncer l'erreur. Le danger est là, pour l'Église, d'oublier ce qui est le plus important. De réussir dans les choses qui n'ont pas la plus haute importance, de ne plus lutter pour l'Évangile. J'étais attristé cette semaine en allant sur le site d'une des plus grandes unions protestantes de France et de voir la manière dont ils décrivaient leurs quatre convictions principales. Les quatre convictions principales qui les animaient, c'était celles-ci. Premièrement, nous vivons d'une confiance reçue et partagée. Deuxièmement, nous avons besoin les uns des autres. Troisièmement, la lecture de la Bible nous met debout. Quatrièmement, la vie bonne est une vie sobre. Alors rien n'est mauvais là-dedans. Mais on pourrait dire que non seulement ce n'est pas très clair sur ce que ça signifie, et différentes personnes qui ont des convictions radicalement opposées pourraient affirmer ces choses, mais surtout c'est très loin de l'essentiel. C'est très loin de l'appel de Paul ici, à lutter pour l'Évangile. À avoir cet Évangile, l'Évangile biblique au cœur de ce que l'Église est, et au cœur de ce que l'Église fait, et à rester unie autour de cela. Et c'est pour ça que beaucoup d'Églises aujourd'hui semblent s'être transformées en hôpitaux qui ne soignent plus les patients, qui font beaucoup de choses, mais qui ne sont pas l'essentiel de ce qu'on devrait attendre d'une Église, qui n'ont pas grand-chose de différent d'autres œuvres non-croyantes, à part une couche chrétienne superficielle. Et c'est pour ça qu'on veut prier pour l'Église de Woluwe, pour notre Église, pour les autres Églises que l'on connaît, pour qu'on ne se détourne pas de l'essentiel, pour qu'on n'en vienne pas à réussir dans les choses qui n'ont pas d'importance ou qui n'ont pas la plus haute importance. Mais il y a aussi un autre danger ici, lié à l'appel de ce verset, le danger de mal comprendre l'unité dont il est question ici, ou le danger de ne pas vivre cette unité. Parce que Paul ici veut encourager l'Église, les Philippiens, à être unis pour un même but. Et ça nous montre donc que l'unité dans l'Église, ce n'est pas juste ne pas avoir de conflit, ce n'est pas juste essayer de garder la paix, de ne pas se taper les uns sur les autres. Non, c'est bien plus que ça. L'unité dans l'Église, c'est être unis autour d'un but commun, autour de la cause de l'Évangile. C'est être unis parce qu'il y a quelque chose de plus important qu'on veut faire, qui est même plus important que nos différences. Travailler ensemble pour l'Évangile. C'est ça qui fonde l'unité chrétienne. C'est ça qui fait qu'une Église est unie. L'unité ne se fait pas autour de l'âge. Ah, on se sent bien ensemble parce que je suis seulement avec des gens qui ont la même tranche d'âge, qui vivent les mêmes trucs que moi dans la vie, et c'est ça qui fait qu'on reste ensemble. Non. L'unité ne se fait pas non plus autour de la culture. Ah, on se sent bien entre nous parce que je suis que avec des gens qui ont la même culture que moi. Jamais de problème de compréhension, jamais de gens qui me marchent sur les pieds, ou de gens qui font des trucs que j'ai du mal à supporter. Non. Non, ce qui fait qu'on est unis dans l'Église, ce qui fait qu'on est bien les uns avec les autres, c'est parce qu'on a des convictions communes autour de l'Évangile et qu'on a le but commun d'œuvrer pour cet Évangile. C'est ça qui nous rassemble. Et c'est ça qui fait que l'on reste ensemble, même malgré ce qui peut nous différencier. Malgré tout ce qui fait qu'on ne serait pas unis, qu'on ne serait pas ensemble si on n'était pas chrétien. C'est ça qui nous unit. Et honnêtement, quand je nous regarde, l'Église de Woluwe, je vois pas mal de différences. Je vois pas mal de choses qui font qu'on est différents les uns avec les autres. Et parfois, je me fais la réflexion, je me dis, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose en commun à part Jésus. Et c'est la bonne chose à avoir. C'est la chose essentielle à avoir. C'est ça le plus important. C'est ça qui nous unit. Et on peut être reconnaissant pour la belle diversité qui existe parmi nous. Et peut-être, oui, c'est le cas, et Steve l'a mentionné, cette diversité peut parfois provoquer des tensions, parfois des frustrations. Mais cette diversité est la preuve de l'Évangile qui nous unit et qui nous garde ensemble. Et il faut reconnaître que cette unité est fragile. On a tous des avis différents dans l'Église sur plein de sujets. Certains préfèrent tel style de musique, d'autres voudraient tel style de musique. Certains pensent qu'on chante trop, d'autres qu'on ne chante pas assez. Certains voudraient plus d'activités pour telle ou telle tranche d'âge ou pour l'extérieur, ou d'autres pensent qu'on a trop d'activités. Certains pensent qu'il faut faire plus ceci ou plus cela. On a tous des avis différents et c'est tout à fait approprié de parler de ces choses, d'en discuter, de s'écouter. Mais il y a le danger que ces choses prennent tellement de poids qu'on en oublie ce qui est le plus important, qu'on en oublie ce pourquoi on devrait être unis. Et on a tous probablement des frustrations sur certaines choses qu'on aimerait être différentes dans l'Église. Mais les amis, réalisons que ces frustrations pâlissent à la lumière du but bien plus grand qu'on est appelé à poursuivre, de lutter ensemble pour l'Évangile, pour ce glorieux Évangile. Ne laissons pas des sujets secondaires nous freiner, nous diviser, nous faire avoir de la distance avec certains frères et sœurs dans l'Église. Ne laissons rien nous détourner de notre mission, de notre objectif. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec l'un ou l'autre aspect de la vie de l'Église, mais j'espère que vous pouvez quand même vous réjouir que l'Église de Woluwe est unie pour la cause de l'Évangile. Que l'Évangile, le vrai Évangile, est prêché chaque dimanche, et ce depuis des années. Que l'Évangile progresse en Belgique et dans le monde, parce que le Seigneur nous permet de faire. Que les croyants grandissent dans la foi, dans leur lutte contre le péché, dans leur amour pour le Seigneur. Que des non-croyants découvrent la foi, sont sauvés et passent par les eaux du baptême. On peut se réjouir de ces choses. Comme Paul le disait la semaine dernière, on peut se réjouir que l'Évangile progresse, que Christ est annoncé, même si tout n'est pas fait à notre manière. Alors, ce n'est pas exprès qu'on a choisi ce texte pour la sortie du livre de James. C'était le texte suivant dans la lettre aux Philippiens, mais je suis reconnaissant qu'on ait pu parler de ce livre et que vous puissiez en profiter, parce que ce livre est précieux pour nous aider à faire le tri, pour qu'on puisse combattre pour ce qui compte vraiment et pour qu'on puisse se réjouir, même si tout n'est pas comme on voudrait, pour nous aider à ne pas risquer de briser l'unité sur des sujets qui nous détourneraient de l'essentiel. Et je vous recommande vraiment, comme suite de cette prédication, de profiter de ce livre. Et de faire ce tri, ça ne voudra pas dire qu'on devrait tous avoir les mêmes convictions sur des sujets plus secondaires ou qu'on ne doit jamais en parler. Mais ça veut dire qu'en tant qu'Église, on veut rester unis pour la cause de l'Évangile. On veut tout faire pour ne pas se détourner de l'essentiel. Et il y a toutes sortes de choses qui vont venir menacer cette unité, mettre à mal cette unité. Mais vivre d'une manière digne de l'Évangile, c'est lutter pour que l'Évangile reste central, résolu d'avancer pour la progression de l'Évangile, même quand tout n'est pas comme on voudrait. La vie est courte. L'éternité arrive. Ne perdons pas le temps à nous disputer sur des sujets si temporaires en mettant de côté les réalités éternelles, la vérité de l'Évangile. Prenons en considération le poids de l'Évangile et vivons tous ensemble une vie qui a le même poids que l'Évangile. Vivre comme cela, ça va aussi provoquer des divisions, de l'opposition, division on l'a déjà vu, de l'opposition. Et c'est notre troisième point ensemble, une opposition inévitable. Regardez avec moi le verset 28. Philippiens 1, verset 28. On est appelé à faire cela sans vous laisser, il a écrit aux Philippiens, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Il y avait à l'époque des gens qui s'opposaient à la foi chrétienne, à l'évangile biblique. Paul donnera plus de détails sur ces gens dans le chapitre 3, des gens qui corrompent le message chrétien ou des gens qui se moquent ouvertement du message de la Bible. Ces adversaires existaient à l'époque et ils existent encore aujourd'hui. Et vous savez tout comme moi, que de lutter ensemble pour l'Évangile, ça coûte et ça va coûter. On veut parler de Jésus autour de nous, répandre l'Évangile autour de nous, mais on sait que certains vont s'opposer à ce message, surtout quand on parlera de la réalité du péché, la réalité du jugement, du besoin de repentance. On veut continuer à croire et à enseigner ce que la Bible enseigne, mais sur certains sujets, c'est de plus en plus scandaleux pour le monde qui nous entoure. J'aimerais juste mentionner quelques exemples de choses qui sont claires dans la Bible, et si vous voulez les creuser, venez me voir après, je peux vous donner des références. Des choses claires dans la Bible, mais qui sont choquantes pour le monde aujourd'hui. J'en mentionne quatre. Premièrement, le mariage est l'engagement d'un homme et d'une femme pour la vie. Deuxièmement, chaque être humain est l'image de Dieu. Et donc chaque vie humaine a la même valeur aux yeux de Dieu, peu importe son âge, son origine, ses capacités, peu importe que cet être humain soit dans le ventre de sa mère ou en dehors. Troisièmement, les animaux et la planète n'ont pas la même valeur que l'être humain et n'en sont pas au même niveau, mais l'être humain a été désigné comme gestionnaire de ce qui l'entoure. Quatrièmement, le monde qui nous entoure n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre d'un Dieu créateur. Ces choses sont claires dans la Bible. Mais honnêtement, on pourrait facilement imaginer que si quelqu'un venait à publier ça sur Twitter, son compte serait banni dans pas trop longtemps. Ou que si vous disiez ça à la pause du midi à vos collègues, ça ferait scandale. Donc il y a des gens, encore aujourd'hui, qui s'opposent à ce que la Bible enseigne, qui voient ça comme un scandale, comme une folie. Mais Paul dit qu'il ne faut pas se laisser effrayer. Cette opposition ne devrait pas nous freiner pour continuer à lutter pour l'Évangile, pour continuer à défendre, à proclamer cet Évangile. Qu'est-ce qui nous encourage à ne pas être effrayés? Dans ce passage, il est dit que c'est pour eux, pour ceux qui s'opposent, une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Si on souffre parce qu'on est fidèle à Jésus, c'est la preuve qu'on est du bon côté. C'est la preuve qu'on a cru dans ce message du pardon des péchés. Et cette réalité de la fin des temps nous encourage, parce qu'on sait que même si ce que l'on croit aujourd'hui est ridicule pour le monde qui nous entoure, on sait que l'éternité prouvera le contraire. Quelques versets plus loin, Paul dira qu'un jour, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Un jour, tout le monde reconnaîtra pour vrai ce qu'il rejette aujourd'hui. Et donc, on peut persévérer à lutter pour l'Évangile. Et pour ceux qui s'opposent au message chrétien, leur opposition est la preuve qu'ils rejettent le seul message qui peut les sauver. C'est la preuve qu'ils sont toujours sur le chemin sur lequel chaque être humain par nature marche, le chemin de la perdition. L'autre encouragement pour nous en tant que croyants, c'est que cette opposition n'est pas en dehors de la souveraineté de Dieu. En fait, ça va même plus loin que ça. Si on regarde le verset 29, on voit que cela est de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Ce verset nous dit que Dieu nous a fait la grâce de croire en Christ, de placer notre foi en lui. La foi n'est pas une œuvre de notre part, mais c'est un cadeau qui vient de Dieu. Dieu nous a donné cette foi. Le salut vient de Dieu. Jusque-là, ce n'est pas trop surprenant à lire, mais ce qui est surprenant, c'est que Paul met la souffrance au même niveau. Regardez à nouveau le verset 29, il dit « Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Il vous a été fait la grâce de souffrir pour Christ. Ou pour le dire autrement, un cadeau vous a été donné quand vous êtes devenu chrétien, c'est la souffrance. Waouh ! C'est surprenant. On n'est pas habitué de lire ça, mais c'est ce que la Bible enseigne. Et ça nous aide à comprendre que la souffrance pour Christ est normale pour la vie chrétienne. Vivre en chrétien coûte. C'est tout aussi normal que la foi. Il n'y a pas de chrétien qui n'ait pas placé sa confiance en Jésus, qui n'ait pas eu la foi. C'est ce que ça veut dire d'être chrétien. Mais de la même manière, il n'y a pas de chrétien qui ne souffrira pas pour sa foi, d'une manière ou d'une autre. C'est ça aussi que ça veut dire d'être chrétien, de suivre un maître qui a souffert. Mais cette souffrance, elle est décrite comme une grâce, comme un privilège de souffrir pour lui, souffrir pour Christ. C'est ce qu'on voit par exemple dans Actes 5. Pierre et les apôtres, ils sont arrêtés pour avoir prêché Jésus, le seul Seigneur. Ils sont battus, et puis il nous est dit qu'après avoir été battus, ils partent en étant joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Souffrir pour Jésus, c'est une grâce, c'est un privilège. Vous pensez peut-être à des moqueries que vous avez entendues quand vous avez défendu ce que la Bible enseigne, quand vous avez dit que vous croyez en Jésus. Vous pensez peut-être à certains amis que vous avez perdus à cause de votre foi. Vous pensez à d'autres amis qui sont toujours là, mais qui ont pris un peu de distance parce qu'ils vous trouvent un peu bizarre de croire dans toutes ces choses-là. Vous pensez peut-être au risque que ça pourrait entraîner pour vous de partager votre désaccord avec un ami sur la religion ou sur sa manière de vivre. Ne nous laissons pas effrayer par ces choses. Ça vaut la peine de vivre d'une manière digne de l'Évangile, même si ça coûte. Ça vaut la peine de souffrir pour quelque chose qui est vrai, pour quelque chose qui compte. L'Évangile a du poids. Vivons à la lumière de cette réalité, une vie qui a le même poids. Et alors qu'on termine, c'est utile de remarquer qu'on est appelé à vivre de cette manière-là en tout temps. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le verset 27, il y a une partie qu'on a laissée où Paul dit « Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entendrai dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Les Philippiens sont appelés à vivre de cette manière-là, que Paul vienne les voir ou qu'il reste absent, que Paul soit là ou qu'il ne soit pas là. Leur manière de vivre ne dépend pas de la présence de Paul. Ce n'est pas comme quand on est à l'école, quand on est plus jeune, je ne parle pas ça d'expérience bien sûr, mais vous savez, des fois, on ne travaille pas quand le prof n'est pas là. Le prof est là, on travaille bien, ou en tout cas on fait semblant de travailler, et puis quand le prof part faire des photocopies, c'est tout à fait différent. Parce que notre motivation à travailler dépend de la présence du professeur. Mais c'est comme si Paul disait à ses chrétiens, « Les amis, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ne cherchez pas à bien vous conduire pour moi, mais parce que comme on l'a vu, l'Évangile vous y appelle. Parce que l'Évangile a du poids. Leur manière de vivre ne dépend pas de la présence de Paul, mais de l'Évangile. Et j'aimerais ici, en terminant, m'adresser à vous les ados ou aux enfants qui sont dans cette salle, et si vous m'entendez, ne vivez pas en tant que chrétien pour faire plaisir à vos parents. Bien sûr, c'est une bonne chose de faire plaisir à ses parents, d'obéir à ses parents, mais la motivation à vivre en tant que chrétien, ce n'est pas pour faire plaisir aux autres. Ça ne marchera pas. Sinon, vous allez essayer de bien faire les choses quand ils sont devant vous, et quand ils ne sont pas avec vous, vous jetez tout à la poubelle. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas faire des choses chrétiennes pour faire plaisir à nos parents, mais c'est vivre en conséquence de l'Évangile. C'est avoir compris la réalité du péché, la réalité du jugement, la réalité du salut. Et c'est vivre à la lumière de ces vérités. C'est vouloir vivre pour plaire à Dieu qui nous a sauvés. Donc essayez plutôt de comprendre l'Évangile. Posez des questions à vos parents, à d'autres dans cette église, sur ce que ces choses signifient pour vous, sur ce que vous ne comprenez pas, ou même sur ce que vous avez du mal à accepter. C'est ça le plus important. Notre motivation à vivre en tant que chrétien, c'est l'Évangile. Et c'est là qu'on termine, avec le poids de l'Évangile. Et cet appel qu'il nous est fait de lutter ensemble pour cet Évangile, de vivre chacun de nous individuellement et tous ensemble, une vie digne de l'Évangile, une vie qui a le même poids que l'Évangile. C'est ça qui est le plus important. C'est dans ce domaine-là qu'il faut réussir avant tous les autres. C'est ça que l'Église de Woluwe doit continuer à faire, malgré nos différences, malgré l'opposition qui est là et qui viendra, et jusqu'à ce que Jésus revienne. Prions pour terminer. Oui, merci notre Dieu pour l'Évangile qui nous sauve, qui nous a transformés. Merci pour le privilège que l'on a aujourd'hui de pouvoir dire avec Paul, Christ est notre vie, et de pouvoir vivre pour lui. On prie notre Dieu qu'on puisse continuer de faire cela, malgré les différences qui sont parmi nous, malgré l'opposition qui est au dehors. Aide-nous à continuer à lutter pour l'Évangile, à voir la valeur infiniment précieuse de cet évangile et à vivre toute notre vie à la lumière de cette réalité. Aide-nous à œuvrer pour l'unité au sein de l'Église autour de ce but commun, pour que dans les années à venir, cette Église continue à proclamer Christ crucifié. Et on prie ça en son nom. Amen. Je vais laisser la place à Steve, mais je mentionne que dans un instant, à un moment que Steve décidera, on chantera le chant « Ton Église triomphante » en lien avec cette prédication, qui parle de l'unité de l'Église et de l'Église qui triomphe en étant...